Une deuxième partie de matinale consacrée à cet anniversaire, triste anniversaire, on le verra avec notre invité dans un instant, des attentats qui ont vu des explosions, deux exactement pour être précis, à l'aéroport de Bruxelles National, à Zaventem, et une dans une rame de métro, à la station de métro Malbec. Alors, on va commencer cette deuxième partie de matinale avec un invité qu'on remercie vraiment à plusieurs titres d'avoir accepté d'être là, d'abord en présentiel, ensuite d'avoir le courage de s'exprimer dans une période toujours un peu délicate. Pierre-Yves de Sèvres, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour situer un petit peu, vous étiez le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles National lorsque l'indicible s'est produit, c'est-à-dire ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer en Belgique, une explosion en plein cœur de l'aérogare de Bruxelles National.
Oui, effectivement. Donc, je suis conservateur pour l'art contemporain au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique et je me rendais à Milan pour la conférence de presse d'une exposition que j'avais montée là-bas en collaboration avec Jacques Attali, que je salue d'ailleurs au passage. Et comme d'habitude, mauvaise habitude, j'étais trop tôt. J'ai pris un train trop tôt. Je suis arrivé près du hall des départs. J'ai retiré de l'argent juste à l'entrée du hall des départs à 7h56. Alors, la raison pour laquelle je peux être aussi précis, c'est parce que j'ai conservé cet extrait de compte que j'ai d'ailleurs produit au tribunal lors de mon témoignage. Je suis rentré dans le hall et donc la première explosion a eu lieu à 7h58 à hauteur des rangées 10 et 11. Moi, je me trouvais à ce moment-là à hauteur du grand tableau d'affichage, donc plus ou moins la rangée 6. Et la première explosion était finalement assez lointaine pour nous. Il y a eu un mouvement de foule, mais il y a eu une indécision. Il s'est passé en fait très précisément 11 secondes entre la première et la deuxième explosion. Moi, je recule en fait à ce moment-là et je me trouve en fait directement à l'emplacement de la deuxième explosion entre les rangées 4 et 5.
Bien. Alors, on s'est parlé bien sûr pour préparer cet entretien ce matin et vous m'aviez dit, moi j'ai eu la chance de ne pas être blessé dans ma chair. Ça veut dire que vous n'avez pas eu de séquelles corporelles de cet attentat. Dans votre souvenir, est-ce que au moment de l'explosion, on réalise directement que c'est un attentat ? On réalise, j'imagine, que c'est quelque chose d'anormal, mais est-ce qu'on pense directement attentat ou bien est-ce qu'il faut d'abord un temps qui paraît toujours plus long que dans la réalité, de voir peut-être des blessés, de se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe ou bien on est d'abord incrédule ?
Oui, c'est une question qu'on pose souvent et je pense que c'est important de revoir les images. Donc, en tant que partie civile, j'ai eu accès évidemment à toutes les images de vidéosurveillance. Donc, on me voit sur la caméra et puis on ne me voit plus parce que la caméra, en fait, qui était braquée sur les rangées 4-5 a explosé littéralement. Donc, on voit la violence de l'explosion est vraiment quelque chose qui est très, très difficile à décrire. Et si la première explosion, effectivement, on ne savait pas trop ce qui se passait, la deuxième, à la seconde où elle s'est produite, moi, j'ai su que c'était ça. Il y a une odeur très particulière. Il y a une odeur de poudre. Le TATP visiblement produit cet effet-là. Et dans la seconde même, je me suis dit, c'est pas possible. Bon, mais en fait, oui, c'est vrai.
D'accord. Et en fait, vous me l'avez dit aussi, vous avez eu comme premier réflexe, alors que beaucoup de gens auraient tendance à, comme vous le disiez, mouvement de foule, sortir le plus vite possible et aller le plus loin possible de ça, ce qui serait tout à fait légitime, enfin ce qui me paraît tout à fait légitime. Vous avez préféré porter secours ou de l'aide à des gens qui étaient autour de vous et que vous aviez vu être en difficulté, voire même blessés gravement.
Oui, c'est un moment très particulier. Donc déjà d'un point de vue psychique, lorsque j'ai fait ma déposition en septembre 2016, donc finalement assez loin du moment, j'avais complètement inversé l'ordre des explosions, j'avais inversé le lieu. Enfin, il y avait une espèce de mécanisme de défense qui s'était mis en place, qui est un mécanisme qui est très connu en psychiatrie.
Et vous avez été suivi pour cela ?
Oui, absolument.
D'accord.
Je le suis toujours aujourd'hui.
Encore aujourd'hui ?
Oui, je suis toujours.
7 ans plus tard.
Oui, je le suis toujours aujourd'hui. Donc, c'est une thérapie spécialisée en trauma, donc post-traumatique. C'est quelque chose qui est, long, récurrent, enfin, qui est très différent d'une personne à l'autre. Et donc, ce moment de l'explosion, pour moi, reste assez flou. J'ai fait une thérapie dans un premier temps basée sur l'hypnose pour simplement pouvoir me rappeler et accepter effectivement la proximité. Parce que quand je parle de proximité, je parle vraiment de proximité immédiate. J'ai vraiment été projeté vers le sol et voilà, d'autres personnes autour de moi. Excuse-moi.
Je comprends bien. Ont été évidemment touchés et j'imagine que c'est pas évident. Prenez le temps, il n'y a aucun souci. Mais ça doit être des moments délicats et j'imagine, je voulais venir à cela justement. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir témoigné ce que vous avez fait cette semaine, si je ne m'abuse, est-ce que ça a été un moment extrêmement difficile comme cela ou bien c'est une forme de libération aussi?
C'est une forme de libération. Maintenant, c'est vrai que on est confronté évidemment à des gens qui ont été blessés et puis qui sont décédés, les personnes en fait qui finalement à qui je dois la vie parce que elles se trouvaient entre moi et l'explosion. Donc il y a ce syndrome de culpabilité.
Est-ce que c'est quelque chose de sûr, ça? Ou bien c'est quelque chose que vous créez comme raison d'être encore là? On parle souvent du syndrome du survivant.
Oui, c'est vraiment ça, oui.
C'était vraiment la réalité?
Oui,
ces gens vous
réalité.
Ont sauvé la vie en payant de la leur, en
ah,
fait?
Ah oui, absolument. Évidemment, comme je le dis, la caméra, les images disparaissent à ce moment-là, donc je ne peux pas dire qui exactement, quel moment, etc., mais... On parle vraiment d'une affaire d'un mètre, ou peut-être même moins. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très, très difficile à conserver. Alors, dans un deuxième temps, oui, effectivement, on se trouve là en plein chaos. On a souvent utilisé, évidemment, le terme de scène de guerre. Moi-même, voilà, je ne peux que l'employer, mais de manière métaphorique, en disant c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on voit dans un film de guerre. J'évite de trop l'employer parce qu'une certaine partie de la défense essaie de déplacer le procès d'assises sur le terrain du crime de guerre, histoire de discréditer, finalement, ce procès, ce que je trouve quand même un procédé assez difficile à accepter, voilà. Et puis, dans un deuxième temps, voilà, je me suis demandé que faire. Alors, ma première crainte était en fait une troisième explosion. Il y a ça aussi, c'est assez curieux. On voit à quel point on est vraiment, en quelque sorte, conditionné par l'actualité, par ce que l'on voit. Et moi, j'avais la certitude, je me trouve donc à ce moment-là, juste à hauteur des portes qui donnent sur le parking, j'avais vraiment la certitude qu'une troisième explosion allait avoir lieu sur le parking. Et j'ai préféré rester au sol, il y avait des enfants autour de moi, je les ai vraiment encouragés à rester au sol.
Prenez le temps, il n'y a pas de souci. Et vous êtes donc intervenu pour pouvoir les aider à reprendre le dessus, j'imagine.
Et... Voilà, en fait, je voulais éviter qu'ils courent sur le parking et que voilà, la troisième explosion ait lieu. Et puis, les secours n'arrivant pas, je me suis demandé voilà, que faire. Je voulais me rendre utile. Ça ne fait pas de moi un héros du jour. Hein, je dis, il y a beaucoup de gens l'ont fait. Le personnel navigant a été extrêmement réactif également. Voilà,
quand vous parlez du personnel navigant, oui. C'est le personnel de l'aéroport dans sa globalité. Je ne parle pas des services de sécurité. Je parle vraiment des hôtesses, éventuellement d'accueil.
Oui, plutôt ça. Plutôt les hôtesses. Oui, effectivement, dans mon souvenir, en tous les cas, voilà, ce sont ces personnes-là qui étaient vraiment en première ligne. Alors, au procès, on a entendu les témoignages du responsable de la police aéroportuaire, du responsable du peloton militaire, des pompiers qui sont intervenus, qui sont tous extrêmement traumatisés. Et il faut imaginer que nous, non seulement on a vécu l'explosion, mais qu'en plus, nous sommes intervenus. Voilà, je dis nous, parce que vraiment, encore une fois, je suis vraiment pas le seul à l'avoir fait. Voilà, bien j'ai sûr. Aidé à poser un garrot sur la jambe d'une femme qui était extrêmement blessée au visage. Il y avait énormément de sang. Quand j'ai quitté l'aéroport, j'étais littéralement couvert de sang, mais c'était pas le mien.
D'accord. Et si vous le voulez bien, et je pense, voilà, je voudrais bien revenir à l'aspect maintenant, arriver à l'aspect procès, ce sera peut-être un petit peu moins émotionnellement chargé.
Ouais.
Non, vous attendez, qui c'est qui doit être désolé? Non, c'est tout à fait légitime.
Mais ce qui est étrange, c'est que sept ans plus tard, et c'est pas simplement le fait que ce soit le jour anniversaire, mais que les émotions sont toujours là.
Alors ça, votre psy vous l'expliquera, parce que moi, on me l'a expliqué aussi, le cerveau n'a pas de mémoire de temps. Ça veut dire que, quel que soit, même si vous êtes en colère contre quelqu'un, quand vous repensez à la colère que quelqu'un vous a générée, même il y a 20 ans, quand vous allez y repenser, vous allez repartir exactement dans la même colère. Donc
j'espère que ça s'éténuera avec le temps.
Ben, je l'espère vraiment pour vous. Alors, On est arrivé aujourd'hui à la phase, une des phases les plus attendues, je dirais, la déposition des, enfin pas la déposition, le témoignage plutôt, des victimes. Est-ce que ce témoignage, vous le vivez comme, je dirais, une manière pour vous d'exorciser certains démons, certains cauchemars? J'imagine que ça doit habiter vos nuits plus qu'à votre tour. Ou bien est-ce que vous êtes toujours dans, je dirais, dans une espèce de fighting spirit en attendant la sentence des accusés qui sont face à vous?
Lorsque j'ai témoigné le 13 mars dernier, je n'ai vraiment pas pensé aux accusés. D'ailleurs, la constitution d'un procès d'assises fait qu'on parle vraiment directement à la présidente, et elle l'a vraiment répété. Elle a dit, voilà, c'est avec moi que vous parlez.
Et on peut la saluer parce que ce soit de tous les côtés. Absolument. Il paraît qu'elle est juste incroyable.
Oui, Laurence Massard, oui, tout à fait.
On a assez tapé sur la justice.
Oui, non,
on
tout à fait.
On y reviendra peut-être au début du procès, et qu'elle est vraiment à la hauteur de sa tâche.
Non, tout à fait. Ça, je le confirme. Et effectivement, c'est vrai que ce témoignage, pour moi, c'est une manière d'acter quelque chose, puisque comme il y a eu ce réflexe psychique d'inverser la situation, que ma déposition, en fait, n'est pas juste, mais j'ai exposé les deux versions. C'est-à-dire, comme j'ai dit, à un moment, on va prendre un chemin de traverse, et j'ai amené, j'ai expliqué au jury ce avec quoi j'avais vécu pendant très longtemps. Et puis, je suis revenu au fait pour expliquer vraiment alors ce que maintenant j'acceptais de voir. Mmh. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est acté, c'est vraiment quelque chose d'officiel aujourd'hui. Et j'avais des amis qui étaient là et qui m'ont soutenu.
Mais j'imagine, et justement, ce procès pour vous, en réalité, on connaît l'issue, hein, évidemment, je suppose qu'il y en a, enfin, j'ose espérer que personne va s'en sortir en disant blanchi, non coupable. Pour vous, vous en attendez quoi exactement? Est-ce que c'était juste la possibilité de libérer la parole, je dirais, aux yeux du monde, d'une certaine façon, ou bien vous avez envie d'appuyer pour que ça fasse le plus mal possible aux autres aux accusés, en proportion de ce que vous auriez pu souffrir? Est-ce qu'il y a pour traduire ce que je dis, une espèce de sentiment de vengeance?
En ce qui me concerne, non, pas du tout. Maintenant, le procès m'apporte différentes choses. D'abord, il m'a permis de voir comment fonctionnait ou comment ne fonctionnait pas, on est bien d'accord, la justice, ce qui est déjà quelque chose d'assez impressionnant. Ça m'a permis, donc, comme je le disais, de vraiment acter cette fois-ci de la version, ou des multiples versions, finalement, que j'ai vécues. Mais mon but n'est pas la vengeance. Mon but est vraiment de témoigner, et on le voit à travers les témoignages, la pluralité des témoignages. Il y en a qui sont extrêmement virulents envers l'État, envers les accusés. Il y en a d'autres qui sont plutôt des témoignages que l'on veut apporter aux proches. Mm-hmm. Et finalement, de rencontrer tout cela fait qu'on se sent effectivement moins seul. Chacun vit sa douleur d'une manière évidemment très intime et très particulière. Mais le fait de rencontrer d'autres personnes, c'est vrai, donne l'impression de faire partie d'une communauté.
Mais justement, je voulais vous poser cette question, et ce sera l'avant-dernière. Est-ce qu'il existe une véritable, vous venez probablement en partie d'y répondre, est-ce qu'il existe une symbiose entre les différentes victimes, ou indépendamment du fait que vous avez vécu un événement commun, d'une certaine façon, que ce soit à Malbec ou à Zaventem, ça reste, je dirais, une espèce d'association de faits, mais pas... Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres victimes depuis lors? Est-ce que vous avez noué des relations plus particulières, plus suivies, plus amicales?
Oui, il y a des liens qui se tissent, qui sont parfois évidemment plus étroits avec certaines personnes qu'avec d'autres. Au tout début, en fait, de ces événements, je m'étais rapproché de l'association V Europe, et puis je m'en suis écarté parce que je ne me sentais pas légitime. Mmh. Je ne me reconnaissais pas comme une victime. Et maintenant, c'est vrai que je croise des personnes qui, comme moi, éprouvent ce syndrome du survivant et se sentent aussi parfois illégitimes. Donc, c'est vrai qu'il y a des liens plus forts qui se tissent avec certaines personnes. Vous voyez, c'est pas facile aujourd'hui, mais enfin, je prends la parole dans les médias, et je le fais parce que beaucoup de gens sont incapables de le faire. Il y a vraiment des personnes qui sont juste tétanisées à l'idée de passer à l'écran, à l'idée d'essayer de simplement prendre la parole. Donc, c'est certain qu'il est il s'est vraiment créé quelque chose. Moi, je n'irai pas, et je n'ai jamais été d'ailleurs aux commémorations officielles. Je suis fort en colère, comme beaucoup de victimes d'ailleurs, contre l'État. L'État qui a failli à nous protéger. Il n'y avait aucun plan qui était prévu à l'aéroport. J'ai essayé de voir ce qui était prévu, mais on s'est senti complètement abandonné. Et puis surtout, toujours aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, il y a des personnes qui sont toujours en grande détresse matérielle et financière, parce que même cet aspect-là, l'État n'est pas capable de le couvrir. Donc, pas de commémoration officielle pour moi aujourd'hui. Par contre, il y a une réception qui est organisée par l'association Life for Brussels, et ça, j'irai avec plaisir.
Bien, ben, on les salue d'ailleurs, parce que pour être en contact vraiment quasi permanent avec cette association, nous saluons vraiment leur action, et je sais qu'il y en avait deux. Et...
Oui, voilà. Absolument.
Et, moi, je suis le quidam de service, je me suis toujours demandé, tiens, il se faisait, entre guillemets, j'avais lu par médias interposés, une espèce de guéguerre. Je me dis, mais enfin, plutôt que de se rassembler...
Non, pas du tout. Je pense qu'on n'en est plus du tout là, et vraiment, on a vraiment le sentiment que tout le monde veut avancer, et je pense que c'est vraiment
l'essentiel. Ça, c'est bien. Et on reviendra sur... c'est pas du tout que je veux l'édulcorer, mais le temps passant, et c'est toujours un peu délicat de dire ça à quelqu'un tellement en lui et tellement de choses à nous exprimer. Mais on reviendra sur l'aspect du faillissement des pouvoirs publics, et c'est vrai, je veux pour mémoire que le roi et la reine, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont spontanément, mais à titre privé, j'insiste bien, déplacés pour aller saluer quelques victimes, et je pense que c'était à l'hôpital clinique universitaire de Saint-Luc, si ma mémoire est bonne.
Oui, je pense. Oui.
Et les politiques ont été d'un silence assourdissant pendant 4 à 5 jours minimum, je pense, m'avancer. Donc, on y reviendra notamment avec notre prochain invité qui est Maître Ferry, qui nous parlera du développement du procès, bien sûr.
Vous le voulez bien, parce que qu'on parle de colère vis-à-vis de l'État, ne pas oublier le titre de ce procès, c'est Attard et consorts. Jamais oublier le rôle du gouvernement belge dans la libération de Attard, qui est revenu en Belgique, et c'est lui le commanditaire des attentats.
D'accord, ben ça c'est bien de le souligner. Pierre-Yves De Sèvres, merci vraiment, infiniment du fond du cœur, et c'est pas qu'une formule consacrée, d'être venu jusqu'ici, d'avoir eu le courage de témoigner. Et n'hésitez pas, quand vous avez envie de faire porter votre voix, on sera toujours là pour le faire.
Merci à vous.
Merci infiniment.